Que le nom du Seigneur soit béni. Il est bon de pouvoir toujours venir à ses pieds pour être instruit et pour pouvoir, en ayant été instruit, être un témoignage à tous ceux qui nous entourent. Savez-vous, lorsque l'Éternel a dit à Abraham, « Je te bénis et tu seras en bénédiction », dans le texte original, il est dit ceci, « Je te bénis et sois en bénédiction. Je t'ordonne d'être en bénédiction. » Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu nous bénit, il veut que nous soyons en bénédiction. Et ce que vous recevez, ce n'est pas pour vous finalement, mais c'est pour que, en recevant sa parole, vous puissiez être en bénédiction aux autres. Amen. Alors ce soir, c'est nos sœurs qui doivent être prêtes à recevoir le message du Seigneur. Hier soir, les hommes avaient leur part. Mais de temps en temps, on dira quelques mots pour les hommes aussi. Vous êtes d'accord? Tout le monde aura son petit compte. Mais cette parole, nous avons besoin de l'entendre. Hier soir, nous avons donc vu la responsabilité du mari à l'égard de sa femme. Je ne reviendrai pas sur les 5 ministères du mari. Et si le mari exerce ses 5 ministères, son foyer sera réellement béni, protégé et recevra l'approbation du Seigneur. Et ce soir, nous allons voir la responsabilité de l'épouse à l'égard de son mari. Et demain soir, nous verrons la responsabilité des époux à l'égard de leurs enfants. Mais pour ce soir, nous verrons donc ce qui concerne les épouses. Un jour, on est venu voir un serviteur de Dieu et on lui a dit, « Monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ce frère-là ?» Alors le serviteur de Dieu a dit, « Je ne sais pas, je ne le connais pas, mais je n'ai pas encore vu sa femme. Quand j'aurai vu sa femme, je vous dirai qui est ce frère. » Alors, on peut faire l'inverse aussi. On peut dire, « Connaissez-vous cette sœur ? Je n'ai pas encore vu son mari. Quand j'aurai vu son mari, je vous dirai qui est cette sœur. » Parce que, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit hier, bien souvent, au dehors, nous paraissons formidables. Mais à l'intérieur de beaucoup de foyers se cache une grande souffrance. Et souvent même des tragédies. Et nous nous disons même, mais pourquoi un tel scandale du jour au lendemain? Et ils paraissaient si bien, ces gens. Ils étaient si bien. Ils venaient à l'église. Ils priaient même. Et tout à coup, l'abcès éclate. Je crois que nous en avons assez de vivre avec des masques, n'est-ce pas vrai, mes chers amis? Que de masques, que de masques. Et après cela, nous disons, Seigneur, mais bénis-moi, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Dieu nous parle, et nous n'obéissons pas. Bien des fois, nous disons, mais pourquoi le Seigneur ne me parle pas? Dieu parle toujours de mille et une façons. Dieu parle de mille et une manières. C'est nous qui faisons la sourde oreille. Vous êtes d'accord? Aucun d'entre nous ici ne peut dire, Dieu ne me parle pas, Dieu vous a déjà parlé, c'est nous qui faisons la sourde oreille. Que ce soir, nous puissions lui ouvrir notre cœur et enlever nos masques et dire, Maître, je veux faire ta volonté, je veux être transparent à ton égard et à l'égard de ma femme ou de mon mari. Le voulez-vous? Et la bénédiction de Dieu sera avec vous. Si vous avez faim et soif de lui, eh bien, il vous bénira. Nous allons donc lire 2 textes maintenant qui vont être à la base de notre méditation. C'était les textes d'hier, mais cette fois, relatifs aux épouses. Alors, 1 Pierre 3, et les versets 1 à 6, premier épître de Pierre, chapitre 3. Versets 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible, un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quand nous parlons de la soumission de la femme, il y a tout de suite des craintes qui se manifestent dans le cœur des épouses. Il y a des craintes parce que bien souvent, nous avons entendu des choses qui ne sont pas bibliques. Et parce que l'attitude du mari n'a pas toujours été la bonne attitude, ou parce que nous n'avons pas pleinement saisi ce que Dieu veut nous dire. Lorsque Dieu nous parle, il n'y a pas de crainte à avoir. Lorsque Dieu confie un rôle à l'épouse ou au mari, il n'y a pas de crainte à avoir. Au contraire, le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu est la foi. Amen. Et la foi. La crainte provient toujours d'une incrédulité. Mais la foi est toujours le produit de l'obéissance. Alors lisons maintenant le deuxième passage, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, Éphésiens 5, versets 22, 23 et 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Que le Seigneur inspire la parole de Dieu. Et qu'il nous aide à entendre sa voix et à percevoir sa pensée. C'est là ma prière. Et je crois que le Saint-Esprit nous aidera à glorifier son nom. Même si le Seigneur vous parle précisément, et il vous parlera certainement précisément, je vous en prie, ne vous fermez pas la voix de l'Esprit, obéissez et Dieu vous bénira. Avant de commencer notre méditation sur la soumission de la femme, donc, et sa responsabilité à l'égard de l'époux, nous devons d'abord comprendre ce que la soumission n'est pas. Parce qu'on parle souvent ce que la soumission signifie. Mais il est bon d'abord de commencer et de comprendre ce qu'elle ne signifie pas. La soumission, d'abord, ne signifie pas que la femme est esclave de son mari. Celui qui se joue de sa femme comme cela se fera tirer les oreilles par le Seigneur. La femme n'est pas un esclave. Il n'est pas du tout question d'esclavage quand la Bible dit « soyez soumis ». Lorsque Dieu donne un rôle, une responsabilité à une femme, ce n'est jamais pour qu'elle soit esclave, au contraire, c'est pour qu'elle soit libre. Ce que Dieu confie, c'est toujours en vue de la liberté de quelqu'un. Vous êtes d'accord? Ce que l'homme fait, c'est toujours pour lier la personne. Mais ce que Dieu confie, c'est toujours pour délivrer la personne. Autrement dit, ce n'est pas du tout une question d'esclavage. Au contraire, c'est une question de libération. Deuxièmement, la soumission ne signifie pas une soumission au péché. On entend tout un tas de choses, vous savez, là-dessus. Quand le mari dit « tu dois te soumettre à moi », et il y en a qui vont jusqu'à pousser à dire « tu dois te soumettre même au péché ». Il n'est jamais question de cela. La femme a le droit de désobéir à son mari quand son mari la pousse à pécher et à renier son maître. Vous êtes d'accord? Il n'est jamais question de faire un compromis avec le péché et avec le Seigneur et avec sa parole. Si l'homme exige cela, la femme doit mettre Dieu en premier dans sa vie. Donc dans tout ce que nous allons voir après, s'il vous plaît, il faut que vous ayez cette optique. Ne pensez pas à autre chose, ne pensez pas que oui, alors s'il me dit de faire ceci qui n'est pas bien, qui est péché, tout ça. Non, dans la soumission dont nous allons parler, est exclu précisément ces deux pensées. Alors maintenant, nous allons voir les fruits de la soumission. Il y a de grands fruits. Et lorsque Dieu donne une responsabilité, il y a de grandes bénédictions. Bien sûr, ce n'est pas facile, comme nous l'avons vu hier. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et le véritable amour divin est toujours un amour qui se sacrifie. Le mari, s'il veut avoir du succès dans sa maison, et s'il veut vraiment réjouir le cœur de sa femme, doit l'aimer jusqu'à se sacrifier pour elle, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il doit renoncer à tout, de façon à ce que sa femme soit réellement réjouie, bénie, épanouie. Il se donne lui-même. Et que de maris égoïstes n'aiment leur femme que pour eux-mêmes. Quel égoïsme! C'est pourquoi il y a de grandes envolées. Oh, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie. Mais il n'y a aucun brin de sacrifice dans cet amour. Aucun brin. Dès qu'on appelle au renoncement, à une consécration, à quelque chose qui nous coûte, il n'y a plus personne. Et voilà pourquoi il y a tant de divorces. L'un est en train de sucer l'autre et personne ne veut donner. Le fruit de la soumission. Nous allons voir 5 sources. Si hier nous avons vu 5 ministères du mari, nous allons voir 5 sources qui jaillissent du cœur d'une femme qui se soumet à son mari. Alors, chère sœur, vous voyez-vous comme il fait un peu chaud ce soir? On va passer un bon moment. Vous allez avoir une source en vous qui va vous rafraîchir et vous en aurez tellement que vous allez aussi rafraîchir les autres, mais d'abord votre mari. Alléluia. Alors, le premier fruit de la soumission ou la première source est celle-ci. C'est une source d'abord de respect pour l'ordre divin. Je répète. La soumission de la femme à son mari est une source de respect pour l'ordre divin. S'il y a 2 têtes dans un foyer, ça ne marchera pas. C'est impossible. Dieu a donné un ordre. Il n'est pas question de supérieur et d'inférieur. Il est question tout simplement d'ordre. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et il doit être maintenu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la femme qui ne se soumet pas à cet ordre est désobéissante, elle est rebelle. Et tout aujourd'hui s'oppose à cet ordre divin, n'est-ce pas vrai? Et vous savez, dans un domaine tout particulier où cet ordre est renversé, tout particulièrement dans le domaine de la divination, de la magie et de toutes ces choses, de la sorcellerie. Qui, en général, pratique ces choses? Cartomanciennes et tout ça, qui pratique cela? Ce sont des femmes plutôt que des hommes. Dans tous ces domaines occultes, c'est plutôt la femme qui pratique ces choses. Mais dites-moi, allons un peu plus loin et voyons pourquoi cela. Pourquoi le diable utilise davantage une femme qu'un homme? Nous nous arrêtons simplement au fait que, bon, ben, c'est une femme, après c'est tout. Elle séduit les gens, elle fait du mal, ou elle fait ceci, elle fait cela. Mais ça va plus loin. Le diable va bien plus loin. Quand une femme a une telle manifestation démoniaque, qu'est-ce qu'il se passe? Cette femme domine les autres et les hommes. N'est-ce pas vrai? Et en général, une femme qui a des dons démoniaques comme cela, c'est une femme qui domine les autres. Autrement dit, l'ordre divin, où l'homme est la tête et la femme lui est soumise, est complètement brisé et anéanti. Et l'ennemi cherche cela. Et plus nous irons de l'avant, plus la puissance des ténèbres agissant, plus cet ordre sera renversé. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont déjà contaminés par cet ordre. Et beaucoup de difficultés dans vos foyers proviennent de cela. La femme veut dominer le mari. Bien sûr, le mari a sa responsabilité, nous l'avons vu hier soir. Mais s'il vous plaît, la femme qui domine son mari et qui domine ses enfants, et sans qu'il s'en rende compte, influencée par un esprit de domination et de divination. Ces paroles peuvent vous sembler dures, mais nous ne pouvons pas jouer à ce jeu-là. Celui qui essaye de dominer, de contrôler les autres, est influencé par le diable. Dieu ne domine et ne force absolument personne. Dieu respecte la volonté de l'homme et de la femme. Lorsqu'il dit quelque chose, il propose toujours. Il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Voyez-vous, il propose quand même, il ne dit pas choisis la mort. Il dit, choisis la vie, mais c'est à vous de choisir. Le choix vous en revient. Autrement dit, l'homme doit être libre de choisir. Vous ne pouvez imposer quoi que ce soit. Et maintenant, je dis cela. Le mari doit remplir son rôle. Ce n'est jamais au mari de dire « Femme, sois soumise ». Vous le remarquez dans ce passage ici, le Seigneur parle directement aux femmes. Il ne dit pas « Marie, vous direz à vos femmes de vous être soumises ». Non, non, non. Le Seigneur n'a pas besoin de passer par vous. Il parle directement. Et nous, nous faisons l'inverse. Quand quelque chose ne va pas, hein? Allez, oh, viens un petit peu ici, toi. Soumets-toi. C'est écrit d'abord, soumets-toi. Soumets-toi. Soumets-toi et tais-toi. Ah bon, vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Et puis la femme fait l'inverse. Quand tu feras tout ce qu'il faut faire, quand tu seras un mari modèle, alors je me soumettrai à toi. Alors vous pensez bien que ça peut durer longtemps, cette histoire. Je me soumettrai quand toi, hein, tu seras un peu plus spirituel. Et comme tu n'es pas spirituel, moi je ne vais pas me soumettre à des personnes charnelles, moi à un mari charnel. Charnel. Ah bon? Et le mari, de son côté, donne des ordres à sa femme. Alors que Dieu donne des ordres au mari séparément et à la femme séparément. Chacun doit obéir au Seigneur. Et aucun d'entre nous, moi je ne peux pas donner des ordres à ma femme. Ma femme ne peut pas me donner des ordres. C'est Dieu qui nous donne des ordres séparément et précisément. Amen. Ceci est très important. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre du Seigneur. Vous ne pouvez pas forcer votre femme à faire quelque chose. C'est impossible. Plus vous la forcez, plus vous la bloquez. Vous n'êtes pas le Seigneur. Vous faites ce que Dieu vous demande et priez. Et la femme doit faire ce que Dieu lui demande et prier. Et dans cet esprit-là, des miracles peuvent se produire dans votre foyer. Mais cessez de vous rejeter la pierre. Cessez de dire, quand ça ira un peu mieux, je t'obéirai. Nous manifestons par là un esprit de désobéissance. Dieu vous demande d'obéir sans vous occuper de l'homme. Alors, la première source est une source de respect pour l'ordre divin. Autrement dit, nous devons obéir à la parole de Dieu. Que le psychologue, que le psychiatre, que ceux qui vous disent, ça n'existe plus, que de psychiatres maintenant disent, le mariage comme nous le connaissons actuellement est une chose du passé, c'est terminé. Mettre deux personnes et qu'ils vivent comme ça pendant des années ensemble, ça n'existe plus. Et cela, nous allons l'entendre de plus en plus, mes chers amis. Si la parole de Dieu n'est pas le fondement même de notre foi et de notre foyer, nous allons devant de grandes difficultés. Donc, le premier pas accepté, mes chères sœurs, il y a un ordre divin. Le mari est le chef et vous devez être soumise à votre mari. Voulez-vous le faire? Si vous obéissez, alors nous allons pouvoir aborder la deuxième étape, la deuxième source. Après, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, pour la deuxième source, la voici. Une source de protection contre l'ennemi. La femme qui est soumise et qui obéit à la parole de Dieu est celle qui est protégée contre les ruses du diable. Et la femme qui désobéit laisse une porte ouverte à l'ennemi dans sa vie. C'est pourquoi beaucoup de femmes et d'épouses sont littéralement tourmentées et sont dépressives. Elles ont beau prier, elles ont beau faire quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne partira pas. Elles ne sont plus protégées. L'ennemi a une porte ouverte à cause de cette rébellion contre le mari et finalement contre le Seigneur, parce que c'est un ordre divin. Voulez-vous être protégé contre les ruses du diable? Chères sœurs, un conseil, obéissez et soumettez-vous à votre mari. C'est la seule protection que Dieu vous donne. Désobéissez à cela, vous ouvrez la porte à l'ennemi et de grandes difficultés vous attendent. Donc dans l'obéissance, il y a la protection. Dans la désobéissance à la parole de Dieu et à l'ordre divin, il y a l'infiltration de l'ennemi. Lorsque nous comprenons cela, eh bien, je vous assure, la parole de Dieu et l'ordre de Dieu est considéré avec sérieux, n'est-ce pas vrai? Maintenant, la troisième source de la soumission, elle est celle-ci. L'épouse met au service de son mari tous les dons, tous les talents, toute son énergie pour qu'il devienne un véritable mari et un véritable chef dans le foyer. Avant de penser à vous, la véritable soumission est ceci, c'est que tout ce que Dieu vous a donné, vous devez en faire part premièrement à votre mari. Dieu vous a donné des talents, il ne veut pas que ces talents soient dilapidés. Dieu vous a donné quelque chose, utilisez premièrement ces talents pour votre mari. Voilà, chérie, tout ce que j'ai, mon intelligence, les dons que j'ai, tout ce que Dieu m'a donné, eh bien, je suis là pour que tu deviennes un meilleur mari et que tu prennes ta place dans le foyer. Je suis là que pour cela. Je ne pense pas à moi. Autrement dit, c'est une source d'enrichissement pour son mari. C'est la troisième source. Une source d'enrichissement pour son mari. Le mari en retire une grande bénédiction. N'est-ce pas merveilleux? Tout ce que Dieu vous donne, mettez-le à son service. Ne gardez rien pour vous. Ne dites pas, oh, moi j'ai tel don et lui il n'a rien du tout. Et que de mari dise par exemple, oh, ma femme elle a tel don mais moi j'ai rien du tout. Ah bon? Comme si Dieu donnait un don pour que ce don les sépare. Dieu donne des dons pour nous unir davantage. Amen. Si, sœur, Dieu vous a qualifié dans un domaine ou dans un autre plus que votre mari, n'utilisez pas cela pour le juger, pour l'humilier ou pour l'abaisser. Mais dites, chérie, ce que tu n'as pas, moi je l'ai et je te le donne. Et ce que moi je n'ai pas, toi tu l'as et tu me le donnes. Si on met tout ensemble, vous rendez compte de tout ce qui va se passer? De grandes choses peuvent se passer quand on met tous les deux ensemble, le mari et la femme. Mais malheureusement, chacun fait un peu son travail de son côté. Et comme on le fait très souvent dans un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur, finalement, tous les dons que nous avons sont perdus et gaspillés. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui demandent constamment des dons, des dons, des dons, des dons. Ils en ont, mais ils ne peuvent pas les mettre en pratique. Ils ne les mettent pas en pratique. Ils ne les mettent pas au service de celui ou celle que Dieu leur a donné. Une source d'enrichissement pour le mari. Voilà pourquoi Dieu vous a béni, chère sœur. Ce que vous avez, c'est pour le mari, pour qu'il accomplisse son rôle convenablement dans le foyer. Aidez-le, aidez-le. Une autre source d'enrichissement pour le mari, j'ai noté ici, elle estime et respecte son mari comme le Seigneur. La femme doit respecter et estimer son mari. Parlez avec estime et respect de votre mari. parler devant les enfants et devant les autres, estimez celui que Dieu vous a donné. Respectez, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. En somme, ce que vous faites, c'est presque au Seigneur que vous le faites. Vous devez voir en lui l'autorité divine et le respecter comme son Seigneur. Ah, Sarah faisait cela avec Abraham et l'appelait son Seigneur. Quel respect! Quel respect! Et maintenant, viens là, grosse tête. Viens ici. Fais ça. Allez, va me chercher du pain un petit peu. L'estime et le respect a complètement disparu. On ne réalise pas la responsabilité de l'épouse d'enrichir son mari. Elle estime et respecte son mari. Il a des défauts, vous avez des défauts, mais respectez-le quand même. Amen. Si vous apprenez à respecter votre mari, vous respecterez les autres frères et sœurs. Parlez avec respect de celui que vous aimez. Parlez avec respect. Je vous en supplie. Et surtout aussi, vous parlez ensuite avec respect de vos enfants que Dieu vous a donnés. Un autre enrichissement maintenant. Elle préserve son mari de faire des erreurs aussi. C'est un moyen d'enrichir votre mari. Le mari ne doit pas toujours dire, ah, c'est moi qui commande ici, t'as rien à dire toi. T'as rien à dire. Vous savez qu'à un moment donné, Abraham a dû obéir à Sarah. Abraham n'était pas content quand Sarah lui a dit, chasse la femme et le fils. Il n'héritera pas avec Isaac, mon fils. Chasse-le. Et Abraham n'était pas content. Mais Dieu a dit, vous lirez dans Genèse 21, sauf erreur. Genèse 21, 12. Il est dit ceci, Dieu parla à Abraham et lui dit, non, écoute ta femme. Écoute. La femme est aussi là pour enrichir son mari spirituellement et pour le préserver de certaines erreurs. C'est pourquoi nous ne devons pas nous entêter. Et vous devez avoir le courage de dire ce que Dieu vous a dit. Amen. Soyez aussi courageux, sœur. Mais faites-le dans l'humilité. Faites-le dans l'amour et je suis sûr que ce sera toujours accepté. Mais ne venez pas avec un marteau et lui dire, j'ai une révélation du Seigneur, tu dois au marché, hein, il n'y a pas d'histoire, c'est comme ça. C'est comme ça ici, il n'y a pas d'histoire. Alors vous pensez bien qu'avec une telle approche, vous allez être rejeté, c'est pas possible. Alors une source d'enrichissement pour son mari. Avez-vous pensé à cela, chère sœur? Avez-vous pensé à cela? C'est votre premier ministère. Faire du bien à mon mari. Lui dire quelque chose quand vous pensez que ce n'est pas juste. Et le mari qui a aussi l'humilité d'accepter ce que sa femme lui dit. Que Dieu soit béni. Et toujours, estime et respect. Et respect. Nous allons voir maintenant une quatrième source qui provient de cette soumission, c'est une source d'autorité spirituelle. Voyez-vous, on aborde maintenant quelque chose de très précis, c'est que dans la mesure où la femme se soumet à son mari et recherche vraiment à lui communiquer tout ce qu'elle a de la part du Seigneur, alors à ce moment-là, ce que son mari a, l'autorité spirituelle que le mari a, est communiqué à la femme. Et dans cette obéissance, la puissance de Dieu agit au travers de cette femme. J'ai lu une fois le récit d'une femme qui se plaignait de son mari. Oh, il n'est pas spirituel, ça ne va pas du tout avec lui, on ne peut jamais prier ensemble, et puis même si ça continue, on n'aura plus nos relations normales ensemble, ça ne va plus du tout, hein, parce que le mari, il n'était pas ce qu'il fallait. Sœur, je vois que vous rouspétez là, mais est-ce que votre mari ne vous a pas proposé cette semaine de vous prendre au restaurant? Ah oui, à deux reprises, il m'a dit,
Chérie, viens, je vais t'emmener au restaurant pour un peu te soulager, tu vois, avec les enfants, tout ça, de temps en temps. Allez, je te prends. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai du travail à la maison, j'ai pas le temps. Alors le pasteur lui a dit, comment, c'est ce que vous lui avez dit? C'est ce que vous lui avez dit? Mais la faute n'est pas dans le mari, la faute est en vous. Vous êtes une femme rebelle. Oh, elle croyait qu'elle était obéissante, qu'elle faisait tout pour plaire au Seigneur. Vous êtes une femme rebelle. Vous n'acceptez pas l'autorité de votre mari sur vous. Vous ne l'acceptez pas. Elle avait de la peine à accepter cela. Et le pasteur lui a dit, allez voir votre mari et dites-lui, chérie, je suis une femme rebelle. Je te demande pardon. Elle avait, c'est une pilule hein, amère. Mais enfin, peut-être que certains ont une pilule amère à ma mère avalée ce soir, mais avalez-la quand même. Si c'est pour sauver votre mari ou votre foyer, ça vaut la peine, vous pensez pas? En général, quand c'est amer dans la bouche, c'est doux ensuite à l'intérieur. Alléluia! Alors, elle a pris son courage à deux mains. Sœur, parfois, vous devez apprendre le courage à deux mains. Elle est allée voir son mari, qui était plus ou moins un croyant. Chérie, je suis une femme rebelle, pardonne-moi. Le cœur de cet homme a été touché. La semaine suivante, il va voir le pasteur. Et il dit au pasteur, c'est vous qui avez parlé à ma femme? Alors oui, c'est moi qui ai parlé à votre femme. Ah, il a dit, j'aime ça. J'aime ça. Et le dimanche suivant, il était à l'église. Il donnait son cœur au Seigneur et il devenait même un ancien. Autrement dit, la soumission de sa femme a débloqué son mari. Et a permis à la puissance de Dieu d'agir dans le cœur de cet homme. Mais tant qu'elle était rebelle et désobéissante, l'autorité spirituelle était limitée, était bloquée. Mais lorsqu'elle a accepté de passer par la croix, c'est toujours la même chose. La puissance de l'esprit est liée à la puissance de la croix. Là où il n'y a pas la croix dans une vie, il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit. Ça n'existe pas, aussi bien pour la femme que pour le mari. Mais lorsqu'elle a accepté d'être faible devant son mari, comme on l'a vu le dimanche soir, l'autre dimanche, lorsque la femme a accepté d'accepter la folie de la croix, et dans cette folie de la croix, la puissance de la croix s'est manifestée et le cœur de cet homme a été touché. Vous vous rappelez l'autre témoignage que vous avez donné aussi, puisque c'est un peu le sujet, de cette femme aux Indes qui avait un mari difficile. Et le mari, chaque fois, s'opposait à elle. Lui n'était pas converti, elle l'était. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas là-bas? Il ne faut plus aller à la mission, abandonne le Seigneur et tout ça. Chaque fois que le mari lui donnait une journée vraiment épouvantable, le lendemain, notre sœur, elle lui faisait un repas encore beaucoup plus préparé qu'avant. À chaque opposition négative, il y avait une opposition, mais alors de bénédiction. Une opposition positive. Alors une autre fois, quand le mari la grondait, attends, tu vas voir comme je réagis, moi. Tu sais pas que je réagis avec amour? Alors cette fois, quand le mari réagissait, elle a dit, attends, j'ai pas besoin de faire du discours. Elle gagnera son mari sans parole. Mais tu parles trop. Tu parles trop, mais tu n'agis pas assez. Ah, tu viens de me faire ça, chérie. Alors attends, tu me connais pas encore. Allez, le lendemain, la maison, de fond en comble. Allez, nettoyage. La maison est beaucoup plus propre qu'avant. Mais le mari, devant une telle manifestation de soumission, était littéralement brisé. Et chaque fois qu'il faisait quelque chose comme cela, la femme faisait quelque chose de plus glorieux encore. Et c'est comme ça qu'elle compterait. Mais alors, avec une telle soumission, elle avait découvert une source d'autorité spirituelle. Amen. Mais cette autorité spirituelle se découvre dans la soumission et au pied de la croix, là où vous acceptez d'être rien, d'être rejeté, d'être critiqué, même d'être abaissé, où plus rien ne compte pour vous que le bien de l'autre, à ce moment-là, dans la folie même de la croix, la puissance de la croix se dégage et les autres sont bénis. Une source d'autorité spirituelle. Plus vous êtes soumis à votre mari, plus vous aurez l'autorité de votre mari. Plus le mari est soumis au Seigneur, plus il reçoit l'autorité du Seigneur. Jamais vous n'aurez et je n'aurai d'autorité spirituelle si je ne suis soumis à une autorité. Il n'y a que celui qui est soumis qui peut exercer l'autorité. Mais un rebelle ne peut pas exercer d'autorité, ça n'existe pas. Mais celui qui est soumis à l'autorité, le mari au chef, au Seigneur, l'épouse au mari, alors à ce moment-là, celui qui est soumis expérimente réellement une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Une source d'autorité spirituelle. L'autorité n'est pas dans notre voix. L'autorité n'est pas lorsque nous crions. L'autorité n'est pas lorsque nous boudons. L'autorité n'est pas lorsque nous pleurons. L'autorité ne vient pas lorsque nous faisons silence pendant 15 jours ou 15 mois. Il y a des couples qui boudent constamment. L'autorité vient lorsque nous nous soumettons comme au Seigneur. Et lorsque nous le faisons, à ce moment-là, quelque chose se passe. Dans l'obéissance, il y a toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Mais sans obéissance, il n'y a pas de puissance. C'est même très dangereux. La puissance sans l'obéissance, c'est très dangereux. Alors, on va voir maintenant la cinquième source, cette fois, d'enrichissement. La cinquième source, c'est une source d'enrichissement personnel. Finalement, tout ce qu'elle fait pour les autres, c'est pour elle qu'elle le fait. Autrement dit, plus vous donnez aux autres, plus vous recevez vous-même. Plus vous cherchez à bénir les autres, plus vous êtes béni vous-même. Et dans cette soumission, il y a une telle joie, un tel amour. Vous avez l'approbation de Dieu, vous avez l'approbation de votre mari, vous avez l'approbation de vos enfants, vous avez l'approbation de tous. La désapprobation de l'ennemi, mais ça peu importe. Mais vous avez l'approbation de Dieu. Et c'est pourquoi c'est une source d'enrichissement personnel. Vous ne pouvez pas mettre en pratique ces vérités sans être béni. Ça n'existe pas. Une paix profonde envahira votre cœur quand vous verrez votre mari heureux. Une joie profonde envahira votre cœur quand vous verrez vos enfants qui aiment et qui estiment leur papa. Parce que vous avez appris à vos enfants d'estimer le Père que Dieu leur a donné. C'est votre papa. Respectez-le. Parlez avec respect. Et lorsque vous verrez vos enfants parler avec respect de votre papa, de votre mari, alors à ce moment-là, il y a une abondance de bénédictions personnelles. N'est-ce pas vrai? À celui qui donne, il recevra toujours en retour. Maintenant, nous avons vu les cinq sources de la, qui proviennent de la soumission. Juste en passant, nous allons voir cinq règles du bonheur conjugal. On va parler un peu pour les deux maintenant, hein, pour finir. Cinq règles, il y a des règles. Et si nous n'obéissons pas à ces règles, on sera disqualifié. Tout simplement, je ne vais pas trop m'étendre, mais ce sont des points importants que nous devons voir ce soir. Vous êtes d'accord? On est prêts? Vous êtes prêts à passer par l'épreuve? Première règle, c'est la maturité. Le couple doit s'avancer vers une maturité. Et qu'est-ce que j'entends par là? Au début de notre mariage, qu'est-ce qu'on fait? Chacun pense à soi. Il y a beaucoup d'égoïsme au début de notre mariage. Beaucoup. Chacun pense à soi. On se marie pour le bien qu'on va recevoir de notre épouse ou de notre époux. Mais alors ça ne peut pas durer longtemps parce que les histoires vont commencer à arriver. Et il faudra changer, passer de l'égoïsme au désintéressement total. Ou à partir d'un moment, dans votre vie conjugale, vous ne vivez plus pour recevoir, mais pour donner. Les problèmes proviennent de ce que chacun cherche à recevoir. Personne ne veut donner dans le couple. Donne-moi, donne-moi, et puis l'autre dit donne-moi, donne-moi, personne ne donne. Et tout le monde veut recevoir, mais personne ne donne réellement. Alors, avançons vers la maturité. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Ne cherchez plus à recevoir. Voulez-vous un peu d'amour? Eh bien, donnez de l'amour, c'est en donnant que vous le recevrez. Voulez-vous un peu de joie dans le foyer? Eh bien, donnez de la joie et vous serez joyeuse ou joyeux. Vous trouvez que vous êtes un peu seul, eh bien, allez trouver quelqu'un et puis pour combler sa solitude. Aimez, vous serez aimé. Rendez joyeux et vous serez joyeux. Cessez de recevoir, mais donnez. C'est là le sommet de la maturité. On ne vit plus pour soi, mais pour l'autre. Vous êtes d'accord? Alléluia. Alors maintenant, le deuxième point, c'est la soumission. Nous l'avons vu, Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais le troisième point, c'est l'amour. Mais dans l'amour, je voudrais appuyer quelque chose. Et un accent qui est tout particulier, c'est l'amour tout particulièrement cherche à encourager le partenaire. Il y a quelque chose de très beau dans cette forme d'amour, c'est d'encourager l'autre. Si vraiment quelqu'un devait être encouragé, un mari devait être encouragé, il devrait l'être par sa femme ou vice-versa. Malheureusement, c'est souvent l'inverse. On n'essaye pas d'encourager son mari ou sa femme. On lui dit toujours ce qu'il ne va pas. Et voilà ce qui ne va pas chez toi, voilà ce qui ne va pas chez toi. Et on est constamment sur le négatif. Encouragez-vous, encouragez votre mari, s'il vous plaît. Encouragez votre femme. Ça n'ira pas toujours tout seul, mais soyez positif, encouragez. Et en encourageant, vous allez vous encourager vous-même. Et c'est ainsi que vous allez voir la joie va revenir. C'est formidable comme une parole d'encouragement peut relever quelqu'un, n'est-ce pas vrai? Et quelqu'un a dit un jour que le découragement est l'arme que le diable utilise le plus. Le découragement. Non seulement pour vous, mais pour les serviteurs de Dieu. Quand le diable arrive à décourager quelqu'un, cette personne est entre les mains du diable. Parce qu'une personne découragée commence à faire des choses qu'il ne fera jamais autrement. Jamais autrement. L'amour cherche à encourager l'autre. Allez chérie, ça ira mieux. Regarde ce que t'as fait l'autre jour, c'était bien. T'as bien prêché, te casse pas la tête. T'as vu, regarde, on m'a critiqué. Peu importe. Jacques, tais-toi. T'as bien prêché. Tu verras, ça ira bien. Vas-y, c'était bien. Continue. Mais oui, ça... Tu verras, oh là là, mais tu te casses. Mais oui, ça va être formidable. Et puis alors, vous, à votre femme, ne te casse pas la tête, tu vas voir, regarde, mais là... Dans la prière, tu verras, tu vas progresser. Mais tu seras une meilleure épouse. Tu t'en fais parfois. Tu verras, mais tu es une femme formidable. Regarde déjà tout le bien que tu fais à tes enfants. Mais regarde, mais c'est formidable. Mais c'est bien. C'est bien. Continue. Continuons. Continuons. L'amour encourage. Le diable est assez là pour nous encourager, vous ne pensez pas? Que ce soit encore le mari ou la femme qui doit donner un coup de main à l'autre pour dire, arrête un petit peu. Un autre accent sur l'amour, et qu'on doit connaître, parce que bien souvent, on aime quand on sent l'amour en nous. L'amour n'a pas son origine dans les sentiments, l'amour a son origine dans la volonté. C'est pourquoi il y a des couples qui disent, « Ah, oh, je sens plus de l'amour pour ma petite femme. Je sens plus d'amour pour mon petit mari. » Ah bon? C'est ça l'amour alors? C'est quand tu sens que ça y est, c'est l'amour? L'amour ne réside pas dans les sentiments. L'amour réside dans la volonté. Il n'est pas question de sentir. Aime. L'amour est un acte. Aime. Aime ton mari, même si tu n'en as pas les sentiments. Aime ta femme, même si tu n'en as pas les sentiments. Même s'il y a quelque chose... Aime. Fais un acte. Dis des paroles d'amour. Et des actes d'amour. Fais-le. Agis. L'amour réside dans la volonté. Et plus tu agis, plus l'amour grandira. Amen. Plus tu agis, plus l'amour grandira. L'amour ne dépend pas des sentiments. Ne dis pas, j'ai pas d'amour. Agis, aime, dis des paroles d'amour. Fais quelque chose, fais un geste d'amour. Et tu vas voir que ton amour va se débloquer en toi et baigner l'autre et le bénir abondamment. Alléluia. Mais ne sois pas motivé uniquement quand tu sens l'amour. C'est pourquoi il y a des envolées extraordinaires. Et le lendemain, il y a des paroles humiliantes, attristantes dans un couple. Uniquement parce que nous sommes motivés par nos sentiments et non par la volonté. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a pas dit « quand vous sentez l'amour ». « Aimez-vous les uns les autres », il fait agir la volonté. Autrement dit, quand on fait agir notre volonté, nous pouvons aimer du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Il n'y a plus de haut et de bas, on peut aimer tout le temps. L'amour, rappelez-vous bien, qui encourage et l'amour qui réside dans la volonté. Même si vous ne sentez rien, dites des paroles d'amour, ayez des actes d'amour et vous maintiendrez ainsi un esprit d'amour dans votre foyer. Une quatrième règle maintenant, c'est la communication entre époux. Le grand problème des époux aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de communication. Chacun boude dans son coin. Pas de communication. Et à cause de cela, les problèmes s'amoncellent. On ne parle pas. On ne parle pas. Parlez, s'il vous plaît. Même si vous devez exploser. Mais parlez, faites quelque chose. Ne restez pas comme ça. On doit tous s'ajuster. mais qu'aucun ne garde quoi que ce soit dans son cœur. C'est la plus grande tragédie. L'amour, c'est justement de communiquer. L'amour est un dialogue, ce n'est jamais un monologue. Dans le couple, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. C'est une communication. Chacun doit avoir la liberté de pouvoir s'exprimer. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et quelles sont les deux choses qui vont faire la communication? Deux mots, miracle. Je vous donne des mots miracles ce soir. Deux mots miracles qui vont rétablir constamment la communication, qui sont très difficiles à dire, mais qui feront des miracles. Deux mots miracles. Pour rétablir la communication entre mari et femme, le premier mot miracle, je te demande pardon. Et le deuxième mot miracle, je t'aime. Alléluia. Amen. Ouh, de temps en temps, vous manquez de bons endroits pour dire Alléluia. Ouh, ah oui, ça vient. Oh, mais vous manquez vraiment des bons endroits pour dire Alléluia. Deux mots miracles qui vont rétablir la communion et la communication ce soir. Je te pardonne et je t'aime. Gardez ces deux mots miracles dans votre cœur. Mettez-les en pratique et ce n'est pas possible que votre foyer ne soit pas sauvé. Amen. Je sais que c'est humiliant de dire « je te demande pardon ». Oh, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de dire « je te demande pardon ». Mais si c'est le plus difficile, c'est que vous en avez le plus besoin. C'est pas ce qui est facile à dire qui vous coûte quelque chose, mais ce qui est le plus difficile à dire. Et si ce soir au milieu de nous, quelqu'un a la peine de dire cela. Il est triste à dire que des hommes n'ont jamais demandé pardon à leur femme. Jamais. Jamais. Ou vice-versa. Et aussi encore une autre tragédie. Des parents qui n'ont jamais demandé pardon à leurs enfants. Jamais. C'est les gamins, ils doivent obéir. Nous, quand on se trompe, qu'est-ce que tu veux? Le gamin, il ne comprend rien du tout, de toute façon. Si c'est on s'est trompé ou pas, il doit obéir, après c'est tout. Nous n'avons pas appris à demander pardon à nos enfants. Comment voulez-vous qu'en retour, ils vous demandent pardon? C'est pas possible. Vous demandez quelque chose d'eux que vous n'avez jamais mis dans leur cœur. Ils ne vous donneront que ce que vous leur avez donné. Et le couple doit savoir se demander pardon et en même temps demander pardon à ses enfants. Depuis quand? Quel est le dernier jour? Quand est-ce que vous avez demandé pardon à vos enfants? Quand est-ce que vous leur avez dit aussi à vos enfants, je t'aime mon fils, t'es formidable, je t'aime ma petite fille. Quand est-ce que vous avez caressé vos enfants pour leur dire, je t'aime mon enfant? Quand est-ce que vous l'avez fait? Quand est-ce que vous l'avez fait? Pour certains, ça remontera à des mois en arrière. Oh, mais j'ai pas le temps. Eh bien, un jour, toi, ton fils n'aura pas le temps de t'aimer, mais il aura le temps de te haïr et de te rejeter. Parce que tu n'as pas eu le temps de l'aimer et de le pardonner. Et la cinquième règle qui tiendra le couple uni, c'est la prière. Amen. Comme je l'ai dit hier, les époux qui prient ensemble restent ensemble. La famille qui prie ensemble reste ensemble. Et dans la prière, il y a premièrement une merveilleuse purification. Vous ne pensez pas? Moi, je ne peux pas me mettre en prière avec ma femme si j'ai quelque chose contre elle. Pas possible. Elle, la même chose. Je la regarde de coin, je dis, alors, qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas se mettre en prière comme ça, chérie, ça ne va pas du tout. Oui. Allez, purification, lavage intérieur. Alors, il faut que je me lève de ma place. Je te demande pardon. Un bon coup sur la tête, ça fait du bien, parfois. Et puis elle, bien sûr, elle demande pardon aussi. Avant de prier, quelle purification. Mais là où il n'y a pas de prière, chacun reste sur ses positions. Le mal grandit, ça s'envenime. Et non seulement le couple est envenimé, mais les enfants aussi sont envenimés. Et au bout de quelques instants, quelques mois, c'est la destruction du foyer. La prière vous tiendra unis. La prière vous tiendra debout. Dans la prière, vous serez renouvelés en concernant toutes les choses que je vous ai dit. La prière est la source. Sans la prière, vous ne pouvez rien mettre en pratique de tout ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez rien mettre. La prière est la source même de notre vie, de notre renouvellement, de notre amour, de notre soumission, de notre consécration, de notre renoncement. Dans la prière, nous puisons mais aux sources même de la vie. Et ensuite, nous pouvons bénir. Alléluia. Est-ce que vous priez, mari et femme? Est-ce que vous priez? Sinon, vous allez au-devant de grandes difficultés. Mais ce soir, vous pouvez détruire les œuvres de l'ennemi et dire, Seigneur, je veux
prendre un engagement et faire ce que tu me demandes. Le Père, en tant que sacrificateur, doit établir lui-même un autel dans sa maison et dire maintenant, nous prions, nous lisons la Bible et nous adorons. Là où ce feu sera maintenu, le feu tiendra longtemps et sera un témoignage pour beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous incliner maintenant dans la prière et obéir au Seigneur Jésus. La foi sans les actes est morte. Nous allons nous laisser sonder et dire, Seigneur, tu m'as parlé ce soir et je veux obéir. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Que le mari pense à lui-même et que la femme pense à lui-même. Chacun devant le Seigneur, obéissant à sa voix. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir, comme un livre ouvert. Nous te disons d'agir en nous et de faire de chacun d'entre nous des maris ou des femmes modèles et fidèles, afin que nos foyers soient des foyers où ta paix habite, où la gloire du Seigneur habite, où le feu divin demeure. Ô Seigneur, Seigneur, répare les brèches ce soir, panse les blessures. Ô Seigneur, réunis ce qui est près de se diviser, remodèle ce qui a été détruit par l'orgueil ou par l'ennemi. Que ce soir, des foyers soient renouvelés dans l'unité, dans l'amour et dans la paix. Fais-le, Seigneur, maintenant, et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Amen. Restons dans la prière, et qu'il y ait maintenant des prières audibles, se plaçant devant le Seigneur, obéissant à sa voix. Alléluia.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. et je veux.
Nous allons nous lever, s'il vous plaît, et finir cette réunion en chantant de nouveau ce chœur. Levons tous les mains vers le ciel. C'est comme un chant d'amour. Oh, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Chantons avec amour pour notre Seigneur.
C'est le son d'amour,
de louer l'Éternel. Il sied aux hommes droits de louer l'Éternel. Ô, ton cœur est satisfait ce soir, et nos âmes sont rassasiées par ta présence. Oui, nous voulons obéir, chanter, adorer, que ta paix inonde nos cœurs et que ton esprit d'obéissance nous conduise à l'action. Et que nos vies soient transformées à l'image du Seigneur. Pour la gloire de notre Dieu, en Jésus-Christ, celui qui versa son sang pour nous racheter, à lui seul soit la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Et que tout le peuple dise Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Amen.
Amen. Amen.